près de chez nous. Et puis il y a des types d'informations qui nous percutent un peu plus. Les actualités de faits graves, des catastrophes autour de nous. En ce moment, peut-être que si vous regardez les informations, il y a des feux un peu partout, des inondations, des drames. Dans le texte que j'aimerais que nous lisions ce matin, il faut allumer la télécommande, ça doit être ça. Dans le texte que j'aimerais que nous lisions ce matin, qui se trouve dans Luc chapitre 13, Luc chapitre 13, versets 1 à 9. Et Jésus, en fait, va être interpellé par des personnes. Ceux-ci vont l'interroger sur un fait, un drame qu'ils viennent d'entendre, peut-être de voir, on n'en sait pas plus. Mais parfois, nous avons besoin de réponses face à certaines choses qui nous percutent. Mais la réponse de Jésus ne va pas être celle attendue. Jésus est venu en effet sauver ce qui était perdu. Et même dans cette réponse, nous allons voir l'objectif principal de Jésus, de Dieu, pour nous. Je vous invite à lire Luc chapitre 13, versets 1 à 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit : Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tuée, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron : Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le, pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ? Le vigneron lui répondit : Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être, à l'avenir, donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Une réponse pour nous sauver. Alors, j'ai fait un petit plan que je respecterai, j'espère. Les fausses croyances. Deuxièmement, la nécessité de se repentir. Et troisièmement, le temps est précieux. Quelques personnes s'adressent à Jésus. Visiblement, ici, ce n'est ni des disciples, ni des religieux. Ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas une foule non plus. Dans le chapitre 12, juste avant, Jésus était entouré d'une foule qui était venue par milliers pour l'écouter, au point de s'écraser les uns les autres. Juste avant une foule immense, ici, un dialogue beaucoup plus intimiste, une occasion en or de s'adresser à Jésus. Des rencontres intimistes, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. On en voit dans la Bible cette femme samaritaine. Une rencontre pas prévue, Mais Jésus va s'adresser à elle, lui qui est venu chercher la brebis perdue. Encore une rencontre intimiste, celle de Nicodème, le pharisien. La Bible, en effet, parle de l'hypocrisie des pharisiens, pas comme une fatalité, mais une occasion de se repentir, d'accepter ce message d'amour. Et Nicodème vient voir Jésus de nuit, savoir comment naître de nouveau. Dans ce fameux dialogue intimiste, nous entendrons le fameux Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est avec Nicodème. Nicodème qu'on reviendra plus tard, où il sera face à des pharisiens et où il défendra Jésus. Et puis encore plus loin, avec Joseph d'Arimathée, le disciple, où à la croix, à la crucifixion, il prendra le corps de Jésus avec Joseph pour l'envelopper d'aromates. Un vrai changement dans sa vie, cette rencontre intimiste, percutante. Ici, une rencontre, plusieurs personnes, mais pas une foule. Une occasion incroyable. Que vont-ils demander à Jésus ? En fait, ils vont raconter à Jésus un drame. Il est dit, il racontait à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens, dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Pilate avait fait couler le sang. Pilate ne l'a pas fait lui-même, mais on comprend qu'il en a donné l'ordre. Ces gens racontent à Jésus un fait, un drame, un massacre subi par des Galiléens, alors qu'ils étaient au temple pour offrir des sacrifices. Ils sont tués par la garde romaine. Il y a, c'est vrai, des choses qu'on a besoin de partager, de parler, qu'on ne veut pas garder pour soi, des choses parfois compliquées à comprendre. Une tuerie, ça les touche, peut-être. En tout cas, ils en parlent à Jésus. C'est une bonne réaction. Confier à Jésus les choses. À ce drame raconté par ces gens, Jésus commence par leur poser une question. S'ils croient que cette manière de mourir avec souffrance était qu'ils étaient de plus grands pécheurs que les autres Galiléens. Pourquoi cette question de Jésus ? Car Jésus connaît les cœurs. Au-delà des mots, il répond au questionnement intérieur. Il va instruire, il va corriger une mauvaise analyse. On peut parfois mal analyser ce qui nous entoure, on peut compatir et en même temps accuser. Croire des choses en regardant la vie des autres. Un peu la pensée qu'avaient les amis de Job, qui sont venus voir Job et ont pleuré avec lui. Mais ensuite, ils ont trouvé contre Job des raisons de son malheur, de fausses raisons, à sa souffrance. Comme si cela ne suffisait pas, ils ont ajouté à sa souffrance, leur accusation. Dans leur pensée de ces gens qui parlent à Jésus, ces gens, ils ne devaient pas être si bien pour qu'il leur arrive un tel drame. C'est des fois une pensée qu'on a. La cathédrale de Paris, on se dit, elle brûle, peut-être que... Dans leur pensée, il faut dire que les Galiléens ne sont pas très aimés, même méprisés par le peuple élu, fier de vivre en Judée. Les Galiléens avaient mauvaise réputation. La Galilée n'est qu'en bordure de la terre promise. Leur réputation était qu'ils étaient des agitateurs, participant souvent à des manifestations contre l'occupation romaine. On trouve à Galilée une population d'origine variée. On pourrait dire la mixité, un peu comme nos quartiers populaires. On y trouve des pêcheurs, des éleveurs de troupeaux, des vignerons et d'autres cultivateurs, des gens considérés comme peu instruits. On prétendait qu'un prophète ne pourrait pas venir de Galilée. Idée que rien de bon ne peut venir de Galilée. Et Nazareth, lieu où Jésus fut élevé, en Galilée, exerça la plus grande partie de son ministère. En tant que Galiléen, Jésus a été méprisé et délaissé par les hommes. Il s'est identifié à ce qu'on rejette. Voilà l'idée sur les Galiléens. Un peu comme nous pouvons avoir des préjugés sur certains lieux. La banlieue du 93, peut-être. Le Nord, peut-être. Marseille, pour certains, avec ses quartiers, peut-être. Pour Marseille, c'est Paris, hein, bien sûr. On trouve partout d'autres pires que nous. La Bible nous dit « Penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses et qu'il est fait que tu échapperas au jugement de Dieu ?» Le fait de juger, le fait d'analyser, le fait de condamner n'enlève pas notre culpabilité. Pour ces gens, les Galiléens ne sont pas des gens bien. Les détails du drame qu'ils racontent ne nous sont pas complètement dévoilés, d'ailleurs pas trop. Il leur répondit au verset 2, « Croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» La réponse est claire, non. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. On pourrait comprendre qu'il y a une pensée selon laquelle grande souffrance égale grand péché. Plus l'homme serait pécheur et plus sa mort serait terrible. Non. Jésus a répondu, je vous le dis, c'est faux. Ils ne sont pas plus grands pécheurs que les autres Galiléens. Oui, en effet, ils sont des pécheurs, mais au même titre que les autres. Jacques nous dit, car quiconque observe toute la loi mais pèche contre un seul commandement devient coupable contre tous. Et nous le savons, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La souffrance dans la mort ne prouve rien. Ce Jésus qui leur parle mourra crucifié sans jamais avoir commis de péché. Jean-Baptiste, rempli du Saint-Esprit depuis le ventre de sa mère, pécheur, oui, fut décapité. On comprend que cette manière de penser doit être corrigé. Et cette parole de vie, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Parole de la plus haute importance. Une question, une réflexion pour eux. Et toi, où en es-tu face à ton péché ? Cette parole vient de celui qui peut sauver nos âmes. Jésus leur parle ici de la seconde mort. Vous périrez tous également. Est-ce dire que ces gens n'ont pas fait le pas avec Dieu ? On ne le sait pas. Mais pour ce qui leur concerne, Jésus rappelle cette vérité. Sans animosité, juste pour sauver, mais si vous ne vous repentez.
Vous périrez tous également, pardon.
Voilà ce qui les attend. Sans se détourner de son péché. Pardon, en se détournant de son péché. C'est préférable. Et aller vers Dieu. À son tour, Jésus, qui sait tout, il connaît l'histoire qu'il leur raconte, va raconter une autre histoire, un autre fait dramatique. Pas par plaisir de parler de drame, sûrement pas. Il n'y a aucun plaisir de parler de catastrophe, même si les gens se nourrissent de ça. Mais s'il leur parle, c'est afin qu'ils comprennent. Il va leur parler de cette tour de Siloé. Cette fois, l'histoire se passe à Jérusalem, qui revêt un caractère sacré pour les Juifs. Jérusalem, capitale d'Israël. La tour de Siloé, sans doute, un bâtiment religieux, quand il s'agit de tours. Et on connaît la piscine de Siloé et ses eaux où les gens allaient pour guérir, pour se purifier. On pourrait supposer que ces 18 personnes écrasées par la tour y étaient pour se faire purifier. On ne le sait pas. Mais cette tour va les tuer, les 18. Aucune intervention humaine. Un événement naturel. De nouveau, cette question, comme nous pouvons en avoir lorsque nous devons affronter des drames. Mais c'est Jésus qui va leur poser. Croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Il y a des gens bien à Jérusalem. Pourtant, ce drame, c'est 18 personnes. C'est ce que doivent penser ces personnes qui interrogent Jésus. Sont-ils plus coupables que tous les habitants de Jérusalem, parce qu'ils ont souffert d'une manière incroyable? Est-ce de leur faute? Il y a des choses qui nous choquent et on cherche une explication avec notre sagesse humaine. On a lu Job tout à l'heure. Des fois, des discours sans intelligence. Nous avons besoin d'une intelligence renouvelée. Vous vous rappelez sans doute le 11 septembre 2001, 19 terroristes, pardon. 19 terroristes détournent 4 avions de ligne. Bilan officiel, 2977 morts, 6291 blessés. Les tours jumelles, le Pentagone visé. Ce pays était-il plus pécheur qu'un autre, parce qu'ils ont subi un tel drame. Excusez-moi pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai l'habitude de pleurer. Ne faites pas attention. Plus proche de nous, les attentats du vendredi 13 novembre 2015 en France. Le bilan des victimes fait état de 130 morts et de 413 blessés, hospitalisés, suite à un concert de hard rock. Est-ce pour cela qu'ils ont subi un tel drame? On peut faire parfois des raccourcis. Étaient-ils plus pécheurs que les autres Parisiens? Non. Et là, il ne s'agit même pas de pratiques religieuses. Oui, les conséquences existent, c'est vrai. Si je suis un influenceur et que je m'amuse à grimper à une tour sans protection sur les gratte-ciel et que finalement il m'arrive un drame, triste, oui, mais on sait pourquoi. C'est inconscient. Ne faites pas ça, c'est risqué. Pour une photo, pour une vidéo, pour de l'argent. C'est de la folie. Et parfois, on paie la folie. Notre manière de conduire, de vivre, de préserver sa santé, sa vie est importante. On se doit d'être sage et demander à Dieu de la sagesse pour tout. Mais qu'il y ait des drames ne doit pas nous empêcher de ne pas en provoquer soi-même. On doit prier Dieu pour être sage. Oui, mais pourquoi ce massacre dans le temple ? Pourquoi la tour est-elle tombée ? Pourquoi Dieu a permis ces catastrophes ? Jésus ne répond pas à ces questions. Il veut les amener ailleurs, à l'urgence. Des catastrophes, il y en aura d'autres, et des sujets de parler aussi. La souffrance du monde ne doit pas nous conduire ni à juger. Tous nous avons besoin de la grâce de Dieu, ni à nous poser toutes sortes de questions, des questions sans fin. La réponse nous ferait sans doute mal à la tête si Dieu nous expliquait. Mais Dieu veut nous rappeler la nécessité d'être prêt. La seule porte, c'est Jésus. C'est la repentance. Deux histoires qui se rejoignent. Les Galiléens ne sont pas plus coupables. Ceux de Jérusalem ne sont pas plus coupables. Si on doit passer en jugement sans la repentance, pour tous, ce sera coupable. Offrir des sacrifices, c'est-à-dire avoir une pratique religieuse, ou être à l'ombre de la tour de Siloé, un signe religieux ne sauve pas. Jésus leur explique que les pratiques, les apparences aussi, religieuses, ne sont pas les choses les plus importantes. Dieu préfère l'obéissance au sacrifice. Dieu préfère l'obéissance à notre service. Il n'y a pas de substitut à la repentance. Elle est un passage obligé. Cette repentance, ce changement dans la volonté, dans les actes, ne plus vouloir pécher, s'en remettre à Dieu, changer de direction. C'est un changement de père, c'est un changement d'héritage. Se tourner vers Dieu, qui devient notre père. Alors Jésus va raconter une parabole au verset 6. Celle d'un homme qui avait un figuier, planté dans sa vigne. Et venu chercher du fruit, il n'en trouva point. Le figuier, un seul arbre, qui représente la nation d'Israël. C'est associé à la loi, à l'attachement à Dieu. Figuier semblable au chef religieux, au grand prêtre du temple, à la pratique religieuse. Le jugement n'est plus individuel, mais fait référence ici au jugement d'Israël et puis des nations. Nous sommes concernés aussi. L'homme dit au vigneron que depuis 3 ans, il vient chercher du fruit sans en trouver. Un figuier qui peut-être peut avoir une belle apparence, de belles feuilles, mais pas de fruits. Depuis ces 3 années que l'homme vient. 3 ans, ce pourrait être les 3 années du ministère de Jésus. 3 ans, Ce pourrait être trois périodes, les 400 ans du règne des juges, les environ 400 ans du règne des rois, et puis encore les 400 ans des derniers prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, ce temps silencieux. L'homme dit au vigneron, « Je ne trouve pas de fruits, coupe-le. » Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre? Quel est donc ce fruit qui manque? Tout comme les deux histoires précédemment racontées, le fruit digne de la repentance. Cette repentance. Il y a des choses, il est vrai, plus faciles à faire. Ce sont les pratiques religieuses. Les pharisiens les font. D'ailleurs, servir dans l'Église, c'est plus facile. Pour nous, plus facile que de porter ce fruit, la repentance. Dans cette parabole, le figuier n'a pas porté de fruit du tout. C'est ce que nous dit Jésus. Mais il leur laisse encore du temps. Encore un temps favorable. Plus court, encore une année, mais précieux. Un temps qui aura son terme. Le vigneron lui répondit, « Laisse-le encore cette année. » Je creuserai tout autour, j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Encore cette année, un temps plus court. Et ce vigneron va mettre tout en œuvre afin que ce figuier puisse porter du fruit. Nous le savons, la Bible nous dit parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Acte 17, verset 31. Alors le vigneron creuse tout autour, il met le meilleur engrais, du fumier, et il patiente encore. N'est-ce pas ce que nous vivons? Jésus, notre avocat auprès du Père, celui qui intercède pour nous. Si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, nous dit 1 Jean 2. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous, nous dit Romains 8, 34. Jésus nous pose des questions. Comme à Pierre, m'aimes-tu? Ou alors, qui dites-vous que je suis? Parfois, que veux-tu que je fasse? Mais surtout ici, Jésus est la réponse. La réponse à une vraie question. Veux-tu être sauvé? Discerner les péchés des autres ne nous purifie pas de notre péché. Le temps est court. On peut gagner la vie éternelle. Et non seulement on gagne la vie éternelle, mais sur cette terre, quand on se repent, on gagne tellement de temps. Le diable n'aura plus cette porte pour nous voler si facilement. Le psaume 51 nous dit, ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. La Bible nous dit, je suis désolé, qu'est-ce que j'aime pas pleurer. Vous étant dépouillé du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance. Selon l'image, pardon, de celui qui l'a créé.
que nous puissions répondre à cet appel. Amen.